la terre. J'ai interrogé les sages et les poètes du monde. Aucun n'a jamais su me dire où je trouverai la paix. Me vois-tu pas venu du fond de l'univers, un océan d'amour qui envahit la terre. J'ai entrepris des voyages, j'étais sous d'autres cieux, j'ai fini par perdre courage devant toi. Jésus, je suis venu non pour les saints, mais pour sauver les perdus. Enfin, j'ai vu venir du fond de l'univers cet océan d'amour qui envahit mon être.
Les musiciens, Dieu vous bénisse, merci pour tout. Ce matin, nous allons continuer et presque terminer notre étude sur le sermon sur la montagne. On y revient. J'aime bien faire des séries comme ça, ça fait déjà quelque temps que je fais cette série sur le sermon sur la montagne, phrase par phrase. Et puis là, je m'étais arrêté un peu parce que le Seigneur avait des choses à dire à l'Église. Et maintenant, je reviens sur ce sermon sur la montagne et nous lisons dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20 ce matin. C'est là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Vous vous rappelez, Jésus était en train de parler du fait qu'il n'y a pas trois possibilités, hein. Il y a deux portes, deux chemins, c'est tout. Et ensuite, il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre bon porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Oh, juste avant, donc, Jésus avait dit, il y a deux possibilités, il y a la porte étroite et il y a la porte large. Et juste après, voilà, qu'il se lance dans cette histoire de faux prophètes. Je crois qu'en premier lieu, il parle à ceux qui, dans leur cœur, en écoutant les paroles de Jésus, tout ce sermon magnifique, avaient pris la décision de passer par la porte étroite et de suivre ce chemin resserré. Mais je pense aussi qu'il voulait avertir les autres, ceux qui n'avaient pas encore fait ce choix, en leur disant que leur mauvais choix les plaçait hors de portée de la protection de Jésus-Christ, hors de portée de la protection de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs? Parce que de même que Jésus n'est venu que pour les siens, de même sa protection n'est assurée principalement qu'aux siens. Mais en plus, sa protection n'est assuré qu'à ceux qui obéissent, parce que vous avez des gens qui sont à lui, mais qui n'obéissent pas. Souvenez-vous que je vous disais vendredi soir, au sujet de Hébreux 5:9, Jésus qui dit, l'apôtre dit que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui obéissent. Ce n'est pas simplement croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ça c'est vrai aussi, mais le salut éternel, à partir du moment où nous rejoignons le corps de Christ et que nous sommes remplis de l'Esprit pour cela, alors notre salut éternel, le salut éternel est pour ceux qui, c'est-à-dire la protection aussi, il est pour ceux qui obéissent. Il y a une question d'obéissance aussi. Ce n'est pas qu'une question de croire, je crois dans l'existence de Dieu, j'aime Dieu, voilà, je vais au culte, je fais ceci, je fais cela. Le salut éternel comprend la protection, mais aussi de ceux qui obéissent. Et il faut que ça soit bien ancré en nous. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi, mais comment, mais pourquoi, mais... Ouais. Alors, bien sûr, Dieu protège les siens, c'est certain qu'il ne va pas non plus les laisser aller n'importe comment, n'importe où, parce que nous sommes quand même ses enfants, mais nous avons besoin, nous, d'être sûrs de sa protection. Et pour être vraiment sûr de sa protection, eh bien, le truc c'est, est-ce que je suis sûr que je suis dans l'obéissance ? Si je suis sûr d'être dans l'obéissance, quoi qu'il arrive, je sais que de toute façon ça concourt à mon bien. Que ça n'est pas un châtiment qui m'arrive, que ce n'est pas un jugement qui me tombe sur moi, mais que c'est une épreuve ou que c'est simplement un truc de la vie normal comme ça arrive chez tout le monde, à tout le monde. La pluie, le soleil, c'est pour tout le monde. Savoir que nous sommes dans l'obéissance, ça nous donne une foi, ça nous donne une tranquillité, une paix. Donc en l'occurrence, obéir, là, c'est se garder soi-même. Gardez-vous des faux prophètes. Ce n'est pas lui qui va le faire. C'est à nous de nous garder des faux prophètes. Vous voyez, il y a toujours eu des faux prophètes. Il y a eu des faux prophètes sous l'Ancienne Alliance. Il y a eu des faux prophètes. Ben, il y en a aussi dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus ne raconte pas des histoires quand il dit ça. Il ne ment pas. Il n'est pas en train de... Vous savez, il y a des gens qui mettent un panneau sur leur portail, « Attention, chien méchant !» Puis quand vous rentrez dans la maison, vous voyez qu'il n'y a que des canaris et des chats gentils, gentils. Là, non. Ce n'est pas « Attention, faux prophète !» alors qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a. Dans la Nouvelle Alliance, comme dans l'Ancienne Alliance, il y a des faux prophètes. Jésus parlait en premier lieu aux gens qui étaient en face de lui, là, sur cette montagne, tous ces braves gens. Bien sûr, ils savaient très bien qu'on allait lire ce texte. Même nous, ici, au 21e siècle, ils savaient qu'on allait lire ce texte. Mais là, tout de suite, pendant qu'il prononçait ces mots, il le disait à des vrais gens, à des gens qui étaient là, sur cette montagne, et il leur disait, gardez-vous des faux prophètes. Or, en dénonçant les faux prophètes de son temps, Jésus faisait surtout allusion aux scribes, aux pharisiens, qu'il qualifie par ailleurs de guides aveugles. Et un prophète, normalement, dans l'Ancien Testament, on disait que c'était un voyant. Mais un voyant aveugle, c'est un peu difficile à gober la chose, d'accord? Jésus savait aussi que le nombre de ces aveugles, de ces gens non-voyants, de ces faux prophètes, il allait grandir et puis qu'ils allaient se sophistiquer. Et que la période de la fin serait caractérisée par deux choses, il le dit, la proclamation de l'Évangile qui va jusque sur toute la terre, dans toutes les nations, mais aussi... La fin est caractérisée par le fait qu'il va y avoir l'apparition de nombreux faux prophètes, des faux docteurs qui égarent le peuple, etc. On le sait. Alors, les apôtres, eux, quand ils vont parler de ça, ils ne vont pas dire faux prophètes, ils vont employer le mot, malheureusement dans nos traductions, ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont mis, mais je trouve qu'on devrait bien le mettre comme ça, pseudo. Des pseudo-prophètes, des pseudo-apôtres, des pseudo-docteurs et même des pseudo-Christ. C'est le vrai mot, parce que le mot pseudo, ça vient du grec qui signifie mensonge. Des prophètes de mensonge, des Christ de mensonge, avec des miracles pseudo, c'est-à-dire des miracles mensongers. Et mes frères et sœurs, l'histoire de l'Église, c'est une triste et longue histoire remplie de pseudo. Et ça donne un témoignage épouvantable dans ce monde. Vous savez, quand on veut simplifier, ici, dans nos pays chrétiens, quand on pense à l'islam, on pense terroriste, poseur de bombes, Al-Qaïda. Ce n'est pas tout à fait juste. Mais quand les islamistes pensent à chrétiens, ils pensent à quoi? Madonna et toute cette flopée de gens qui se baladent avec des croix sur eux et qui vivent une vie de patachon. C'est ça l'image qu'ils ont. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? C'est la grande confusion. Pseudo. Pourquoi est-ce que Dieu a permis tout ça? Pourquoi? Dieu a permis que ces pseudos existent pour qu'ils soient un défi constant à la vraie Église. Un défi qui pousse l'Église à réfléchir, un défi qui pousse l'Église à avoir un discernement au sujet de la vérité. Malheureusement, l'Église, ça ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Alors, puisque Jésus nous met en garde contre les pseudo-prophètes, c'est qu'il existe donc une norme. C'est à nous de réfléchir, c'est à nous de discerner. Donc, on a une norme, on a une mesure, on a un étalon pour savoir ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui peut nous permettre de reconnaître la falsification opérée par les faux, par les pseudos. Sans cette norme absolue, la notion de faux prophète, eh ben, elle n'a pas de sens. Et se garder soi-même, si on n'a pas quelque chose pour comparer le vrai et le faux, c'est un casse-tête chinois. Je déteste les casse-têtes chinois. Je me rappelle toujours, j'avais été dans la famille Royer, chez le papa et la maman de Stéphane, ils ont arrivé avec des casse-têtes chinois. Oh, j'ai dit l'horreur. On a passé une bonne partie de l'après-midi à faire des casse-têtes chinois. Je déteste les casse-têtes chinois. C'est terrible. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, je ne supporte pas. J'aime quand les choses sont simples. Jérémie, le prophète, il s'est exprimé au sujet des faux prophètes et il a dit que leurs prédications ne sont que des visions de leur imagination. Alors que les vrais prophètes, eux, se tiennent au conseil du Seigneur et ils écoutent sa parole et ils font entendre la parole de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais ça ne me dit pas grand-chose. Attendez, ça va venir. Il dit aussi qu'un prophète, s'il a un songe, il faut qu'il raconte son songe. Et celui qui a une parole de Dieu, il faut qu'il la proclame exactement. Et qu'en fait, il n'y a rien de commun entre la paille et le froment. Il parle à un peuple qui est un peuple près de la terre, qui connaît bien la différence entre la paille et le froment. Moi, quand je vais au Burkina Faso et puis que je vois plein de trucs verts, je dis « Ah, mais c'est formidable, vous avez une moisson formidable. » Il dit « Non, c'est tout de la mauvaise herbe. » « Ah bon ?» J'y connais rien. Mais il faut apprendre, on peut apprendre à faire la différence. La parole de Dieu, elle est l'absolue vérité. Et ceux qui propagent des mensonges au nom du Seigneur sont des faux prophètes dont les vrais disciples doivent se garder. Bon, alors, pour faire passer leurs mensonges, les pseudos, eh ben, ils vont se présenter d'une certaine manière. Voilà ce que Jésus nous dit. Ils vont se présenter d'une certaine manière. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie qu'il y a des faux bergers, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux tout ce que vous voulez, mais qu'il y a aussi des fausses brebis. Puisqu'ils se déguisent en brebis. Ils rentrent dans le troupeau comme des brebis, pas comme des pasteurs. Et puis après, ils prennent petit à petit l'autorité et ils s'auto-proclament. On en voit combien de ces prophètes auto-proclamés, etc., etc., qui sont rentrés simplement comme des brebis et qui ont compris le truc. Et qui ont vu que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de naïveté. Et ils se sont servis de ça pour asservir le peuple. Et alors, comme dans l'Église, avec le temps, il y a de plus en plus de faux bergers qui se sont introduits d'abord comme des brebis, puis qui se sont autoproclamés bergers ou prophètes ou apôtres ou ce que sais-je, ou bishops maintenant. Vous savez que ça, c'est la grande mode, surtout en Afrique. Eh bien, ces faux bergers, ils ne se mettent pas en peine pour les brebis parce qu'elles ne sont pas à lui. Ils s'en fichent. Ce qu'il veut, c'est juste la période de l'attente, hein, la dîme et ces choses-là. Alors, ils font leur job, puis après, ils se taillent. Ils rentrent chez eux, ils se taillent, ils ne s'occupent pas. Ils ne veulent pas aller, ils ne veulent pas. Un berger, il vient avec ses brebis, là, ils ne veulent pas. Et vous les voyez se construire des maisons extraordinaires. C'est faramineux. Et c'est ça qui donne au loup la possibilité d'entrer dans la bergerie et dans les troupeaux bien déguisés, parce qu'au départ, les brebis ont été naïves. Elles ont cru à une brebis qui est rentrée, puis qui parlait bien, puis qui les a séduites, et puis qui s'est placée là, qui s'est autoproclamée. avec une apparence d'humilité et une apparence de sainteté. Mais ce sont des loups qui prolifèrent dans le troupeau de Dieu parce que les bergers, en fait, la plupart, ne sont que des mercenaires. Paul le dit, il dit, je sais bien qu'après mon départ, c'est-à-dire après ma mort, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Acte 20, 29, 30. Soyez vigilants, pas naïfs. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce qui pervertit et met en danger la véritable Église de Jésus-Christ? Eh bien, ce sont des pseudo-paroles de Dieu. Jérémie le dit clairement. Ils osent dire à ceux qui méprisent la parole, c'est-à-dire à ceux qui sont désobéissants, tout ira bien pour vous. Ils osent dire, c'est Jérémie qui dit, ils osent dire à ceux qui persistent dans leur entêtement, le malheur ne viendra pas sur vous, ainsi dit le Seigneur. Maintenant, il y a des vraies brebis dans les vrais troupeaux, dans le vrai troupeau de Dieu, qui sont parfois désobéissantes. Et il y en a qui persistent dans leur entêtement. Pourtant, elles sont des vraies brebis. Et à cette sorte de brebis, ce n'est pas des gens comme ça qu'il faut, c'est des coups de bâton. On vient de chanter « L'Éternel est le bon berger ». Qu'est-ce qu'il dit ce psaume ?« L'Éternel est le bon berger ». Ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire qu'un bon berger, bien sûr qu'il aime ses brebis, bien sûr qu'il est gentil avec, bien sûr que de temps en temps il les prend sur ses épaules ou dans ses bras, il leur fait des câlins, tout ce que vous voulez. Mais quand elles font quelque chose qui n'est pas bien, ton bâton et ta houlette me rassurent. Tape dessus. Oh, mais les brebis, hein, pas beaucoup les pasteurs qui tapent dessus, préfèrent les pasteurs qui disent « Tout ira bien, le Seigneur est avec vous, c'est simplement une épreuve, ne craignez pas, Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon, lundi et là. » Les pseudos, ils les caressent dans le sens du poil, « Tout ira bien. » Voilà ce que Jérémie dit. Alors, Dieu dénonce cette fausse sécurité que ces pseudo-prophètes proclament. Pseudo-sécurité. Rappelez-vous, tu es comme Sodome qui vit dans une insouciante sécurité. À cause de quoi? À cause justement de ses dirigeants qui sont toujours tellement gentils. Oh, il ne faut surtout pas dire, n'est-ce pas, des choses qui pourraient déranger. Tout va bien, rien ne va, mais on dit tout va bien, tout va bien. Leur discours, c'est un mauvais service qu'ils rendent au peuple de Dieu. Cette sorte de discours positif à l'extrême n'incite pas les vraies brebis à marcher à la suite du Seigneur d'une façon correcte, mes frères et sœurs. Ces faux prophètes, en ne parlant pas du jugement que ces entêtés encourent, ils ne leur donnent pas le moyen d'échapper à ce jugement. Parce qu'on doit échapper à ce jugement. Ce que Jésus venait de dire, c'était clair. Il y a deux portes, il y a deux chemins, il n'y a pas trois possibilités. Donc, il n'y a pas possibilité de se tromper. Mais ces pseudos, ils arrivent à embrouiller l'Évangile. Ils arrivent à l'embrouiller en le mélangeant avec la loi de Moïse, mettant les brebis dans la confusion. Ces pseudos, ils rendent le chemin étroit, encore plus étroit. Parce que ce n'est pas l'Évangile de Jésus-Christ, c'est l'Évangile, mais mélangé avec la loi de Moïse. Alors ça rend le chemin étroit, encore plus étroit. Vous avez vu ce qu'on a lu de ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne au sujet de la loi de Moïse. Ou alors, ils prétendent, oh, c'est pas si dur que ça finalement ce chemin étroit. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Comme Jésus, il y a deux portes. Ils ont aussi deux tactiques. Soit c'est le légalisme, soit c'est un pouh, alléluia. On a tous bien rigolé, tout le village a brûlé avec les pompons. Vous voyez, on s'en fout, tout va bien, madame la marquise. Bon, il y a votre jument grise, bon, enfin ça, voilà, tout va bien. Vous savez, dans un troupeau de brebis, les porcs, ils sont facilement reconnaissables. Ils sont facilement reconnaissables, les porcs. Mais les loups, c'est un animal beaucoup plus racé, beaucoup plus fin, capable de se déguiser. Les brebis qui sont imprudentes, les brebis qui sont trop naïves, elles peuvent les confondre avec les vrais, et puis alors elles vont les accueillir en cochon, ça ne se déguise pas. Quand tu as un cochon qui rentre dans l'église, ça se voit tout de suite. Mais les loups, ils sont rassurants, n'est-ce pas? Pour être rassurants, ils vont être du type autoritaire, parce que c'est vrai que le bâton, ça rassure. Mais ils en mettent un peu de trop. Ou alors, ils rassurent en étant très permissifs, n'est-ce pas? Oh, Dieu est tellement bon. Vendredi soir, je vous parlais de trois sortes de personnes qui se trouvent devant le grand trône blanc, vous savez, au jugement dernier. Et parmi ces trois sortes de personnes, il y a une sorte de personne dont je vous parlais. Ce sont ceux qui, sur la terre, n'ont jamais entendu parler ni de la loi de Moïse, ni de la loi de Jésus-Christ. Vous vous rappelez? Et on a lu dans la Bible que la loi est écrite dans leur cœur. C'est Dieu qui a écrit la loi dans leur cœur. Et ils seront jugés avec justice, d'après cette loi, et d'après la conscience qu'ils ont eue, d'après la loi qui est écrite par Dieu dans leur cœur. Est-ce la vérité? Oui. D'après leur conscience, en tenant compte, Dieu va tenir compte de leur niveau d'éducation, de leur environnement, s'il était favorable ou non, voilà, bon, bref. La loi de Dieu écrite dans le cœur de ces gens formidables. Mes frères et sœurs, ces gens-là seraient-ils les seuls à avoir ce privilège d'avoir la loi inscrite dans leur cœur? Ceux qui connaissent Moïse, ont-ils besoin d'un bouquin? Ont-ils besoin de gens qui leur expliquent le bouquin? Ils sont moins privilégiés donc, alors, ceux qui connaissent Moïse. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et les disciples de Jésus, est-ce que cette loi n'est pas inscrite dans leur cœur? Est-ce qu'il faut absolument qu'ils aient un bouquin et des gens qui leur expliquent le bouquin, qui interprètent le bouquin? Les juifs croyants ont-ils besoin de prophètes pour leur dire ce qu'ils doivent faire? Ou s'ils réfléchissent, n'ont-ils pas le pouvoir de savoir par la loi qui est inscrite dans leur cœur? Oh, ils n'ont peut-être pas la loi inscrite dans leur cœur, comme ces grands privilégiés du bout du monde qui n'ont jamais entendu parler ni de Moïse, ni de Jésus. Ah ben moi j'aimerais bien mieux être un de ces gens-là parce que c'est beaucoup plus facile. J'ai pas besoin d'intermédiaire alors. J'ai la loi inscrite dans mon propre cœur. Formidable. Et les disciples de Jésus, ont-ils vraiment besoin des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, etc., des apôtres, pour savoir comment agir dans leur vie au quotidien? Ont-ils vraiment besoin? Les gens sans Moïse et sans Jésus savent très bien et ce qui est mal. Et nous, les brebis du Seigneur, on serait tellement stupides qu'on ne saurait pas. Il nous faut des gens sur une estrade avec un micro pour dire ce qu'il faut faire. Allons, allons. Mes frères et sœurs, un prophète, un vrai, quand il vous parle, un homme de Dieu, un vrai, quand il vous parle, il vous dit le Amen de Dieu sur la pensée que Dieu a inspirée dans votre cœur. Il ne vous dit rien d'autre. S'il vous dit autre chose, c'est que soit vous n'avez pas été inspiré par Dieu, et alors il vous reprend avec douceur pour vous montrer dans la parole ce qui est la vérité parce que vous êtes égaré, ou alors il vous dit la vérité que vous avez déjà. Et comme dirait Dominique, ça confirme ce que je pensais ce matin. Amen. C'est comme ça, c'est à ça que ça sert un serviteur de Dieu, un prédicateur, un pasteur, un prophète. C'est à ça que ça sert. Parce que nous ne sommes pas des laissés pour compte, nous qui connaissons Jésus-Christ le Seigneur, nous qui sommes des enfants de Dieu. Ça, c'est, sa parole, elle est inscrite dans notre cœur. Et il faut arrêter de jouer les idiots. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Et arrêter de dire, oh ben, d'après ce que j'ai compris, de ce que le pasteur a dit, ou de ce que j'ai lu dans tel bouquin, ou de ce que le prophète a dit. Non, 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 arrêtez. Vous savez très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous ne pouvez pas être séduit que par vous-même. Dieu est le bon berger. Nous, les ministres, les pasteurs et toute cette équipe-là, nous sommes là juste pour veiller à ce que vous compreniez bien les Écritures, parce que c'est vrai qu'il y a des choses compliquées et des choses cachées, et que nous pouvons, l'Église se réunit de temps en temps pour pouvoir étudier ces choses-là. Maintenant, on a fait de l'Église... Ça n'est plus qu'un endroit où on étudie la parole de Dieu et où on loue le Seigneur. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est ce que c'était au début, tout au début, à Jérusalem. Et ils avaient aussi des temps de réunion où les apôtres parlaient de ce que Jésus avait dit, expliquaient les choses. Vous comprenez? Eh bien, c'est ça, nous avons aussi, nous, de temps en temps, deux fois par semaine, un moment où on fait le point sur un texte de la Bible et tout. Et tout au long de votre semaine, vous n'êtes pas livré à vous-même, vous êtes livré au Saint-Esprit de Dieu. Parce que vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ et il vous inspire et il est votre bon berger et il vous conduit et vous ne manquez de rien. Et quand il y a un tout petit problème, eh bien, il est réglé en général quand vous venez écouter la parole de Dieu parce que, oui ou non, est-ce que le Saint-Esprit vous parle ici en vous disant oui, amen? Ah, mais nous avons justement parlé de cette chose cette semaine. Ah, mais nous avons, je me posais justement la question, combien de fois ça vous est arrivé? Voilà ce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le serviteur de Dieu, il n'est pas là pour lire la Bible à votre place. Il n'est pas là pour réfléchir à votre place. Il n'est pas là pour prier à votre place. Il est là juste pour révéler. C'est un révélateur de la parole de Dieu qui est dans votre cœur, qui vous donne un amen. C'est tout. Vous n'avez pas à suivre un homme de Dieu. Vous avez à suivre le bon berger. Amen. Jésus dit, en aucun cas, un homme peut-être un directeur de conscience. En aucun cas. Matthieu 23, 10. Vous voyez la norme qui permet de reconnaître les pseudos? Un pseudo, il va mettre des fardeaux sur les épaules des vrais brebis. Un vrai, il va soulager les vrais brebis en leur donnant la parole juste qui va ôter, qui va trancher ce qui doit être tranché et ôté, ça sera un soulagement pour la vraie brebis, pas un fardeau. Ça ne va pas être un fardeau. Maintenant, il faut aussi savoir que la parole de Dieu est un fardeau pour les fausses brebis. Ah, alors là, oui. Ou pour les brebis entêtées, oui. D'accord. Mais dans la norme, dans les choses normales, une vraie brebis, quand elle a un fardeau, le serviteur de Dieu est là pour l'enlever, pas pour en remettre un autre. Je me rappelle quand je travaillais avec Teen Challenge, on rigolait. Bill Williams avait lancé une phrase, il disait « Oh, vous avez un problème, venez à Teen Challenge, vous en aurez deux. » C'était juste une blague. On n'est pas là pour mettre des fardeaux sur les gens. Ça, c'était les pharisiens, ceux dont Jésus disait que c'était des conducteurs aveugles. Comment alors se garder? Eh bien, en ayant du bon sens. En ayant du bon sens, en priant Dieu de nous aider à utiliser nos facultés critiques, à ne jamais nous relâcher dans notre vigilance. Derrière le théologien, derrière le beau bouquin écrit par un grand professeur chrétien qui travaille à l'université Maastricht, derrière le pasteur, il revient aux disciples de Jésus-Christ d'apprendre à voir s'il y a un agneau ou s'il y a un loup. C'est à vous. Et puis Jésus passe du loup et de la brebis à une autre métaphore, le fruit et l'arbre. Vous avez vu, il parle du loup, de la brebis, donc hop, tout d'un coup, hop, l'arbre, le fruit. Alors, là, il nous explique que la confusion, elle peut absolument être prévenue. C'est assez simple, en fait. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai, un loup, il peut se déguiser. Mais vous avez déjà vu un arbre qui se déguise, vous? Un loup, il peut rentrer comme ça dans le... Mais un arbre, bon, il suffit d'apprendre un petit peu, un pommier, on ne va pas le mélanger avec un sapin, hein. Non? Vous voyez un cocotier, vous n'allez pas dire, oh, il est beau ce prunier. Même s'il n'a pas de fruits. Vous voyez bien que c'est un pommier ou un oranger. Ou... Non? Et puis si vous ne savez pas, c'est de votre faute, vous n'avez qu'à apprendre. Ça revient à vous. Aucun arbre ne peut cacher son identité. Et de toute façon, il est trahi par ses fruits. Et même, il ne peut pas se déguiser, mais même si le pommier est malade, ça se voit même avant qu'il porte des fruits. Et quand il porte des fruits, alors là, c'est le comble. Alors là, on voit tout de suite. Bon, c'est un pommier, normalement ça doit être un bon arbre, mais il est malade. Donc voilà, est-ce qu'on va suivre? Moi, je me rappelle toujours, pourquoi est-ce que je vais suivre un pasteur qui a des problèmes partout la tête Non. Il y a un problème, il y a une maladie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce ne sont pas des fruits de qualité. Alors on ne confond pas, on ne peut plus confondre. Jésus est en train de nous dire ça, on ne peut pas confondre. Un vrai arbre, un bon arbre, il est fertile, c'est-à-dire il est semblable à celui qui l'a planté, à celui qui lui a donné la vie, c'est-à-dire à Jésus. L'apôtre Paul parle du fruit, il dit c'est l'humilité, la douceur, l'amour, toutes ces choses-là, vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, la dureté, toute cette série dont l'apôtre Paul parle aussi. On voit tout de suite. Le fruit, ça peut être aussi le contenu de l'enseignement. Jésus a dit un jour à des religieux, engeance de vipère, voyez comment il leur parlait, engeance de vipère, pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son bon trésor, tire de bonnes choses. L'homme mauvais, retire de mauvaises choses. Vous voyez, il y a une analogie entre l'arbre et le trésor, entre le fruit et l'enseignement. Cette analogie, elle indique, mes frères et sœurs, que l'enseignement doit être éprouvé. Éprouvé. On doit éprouver la personne et on doit éprouver l'enseignement. Vous trouvez ça dans 1 Jean 2, 26 et 1 Jean 4, 1. Mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Mon message aujourd'hui, ça pourrait se résumer à ça. C'est à vous de le faire. En fait, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, gardez-vous. Gardez-vous, c'est tout. Vous savez, au XVIe siècle, les réformateurs ont été accusés par Rome d'être des pseudos, d'être des faux prophètes. Alors les réformateurs, ils ont utilisé la Sainte Écriture et ils ont réussi à maintenir que leur enseignement, ce n'était pas quelque chose de nouveau, mais que c'était la redécouverte de choses anciennes. Ah, Michel Jonton, hérétique avec tes doctrines. Mais je peux vous prouver par la parole de Dieu que ce ne sont que des choses anciennes que vous avez oubliées. Autant que les catholiques avaient oublié les choses anciennes et accusaient les réformateurs d'être des hérétiques. Il faut utiliser votre bon sens, appuyé sur la parole de Dieu. Luther, il s'est écrié, restez attaché à la parole de Dieu et vous serez capable de reconnaître le juge qui a raison. Il se plaçait aussi en tant que juge. Vous me jugez, disait-il, moi je vous juge. Mais restons attachés à la parole de Dieu et on verra très bien. Ce matin, j'ai remis les 20 premiers chapitres du livre d'Enoch à Philippe qui sont terminés parce qu'il veut en faire une lecture audio. Et puis j'ai remis encore 10 autres chapitres à Dominique pour qu'il corrige les fautes d'orthographe une dernière fois. On en trouve toujours. Est-ce que je suis en train de rajouter à la parole de Dieu? Mais cherchez par vous-même. Lisez, comparez avec les Écritures. Voyez si cela est correct d'après les Écritures ou si c'est un faux livre, si c'est un truc du diable, si c'est un truc démoniaque. Ou si c'est vraiment inspiré par Dieu, mais c'est à vous. Je peux vous dire, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais vous convaincre, c'est vous qui devez par l'étude vous convaincre. Gardez-vous des faux prophètes, ça veut dire ça. Cherchez par l'étude à vous convaincre vous-même. Je ne peux pas vous convaincre. Et le Saint-Esprit ne le fera pas. Jamais. C'est à vous d'utiliser votre bon sens. Alors, il y a l'enseignement, mais il y a aussi la manière d'enseigner, qui est un fruit. Maintenant, Jésus dit, celui qui cherche sa propre gloire parle de son propre chef, mais celui qui cherche la gloire de Dieu, celui-là est vrai. Voilà, la manière d'enseigner. Je suis désolé, mais il y a une certaine dignité dans l'enseignement. J'espère que dans l'éducation nationale, dont nous avons plusieurs représentants dignes ici, on ne verra jamais des enseignants faire « Oh, c'est extraordinaire! Oh, dans l'arithmétique, il se trouve que « Oh, je suis absolument époustouflé de voir que 2 et puis 2, ça fait 4. Amen. Répète, 2 et 2, 4. Oh oui, oh oui, oh oui, 2 et 2, ça fait 4. Alléluia, alléluia, alléluia. » Ben, on voit ça dans l'église. Je n'ai plus l'âge de faire ces âneries. Est-ce que vous me suivez? Tant plus sage dans le monde que dans l'église. C'est pour moi qu'il invente, c'est Jésus. Ma femme me disait hier. Et puis, donc on voit qu'il y a un triple test. La personnalité, c'est-à-dire doux, humble, etc. L'enseignement, est-ce qu'il est appuyé sur l'écriture? Est-ce que c'est un enseignement qu'on ne connaît pas, mais qui finalement se trouve dans l'écriture depuis très longtemps, mais qu'on l'a oublié, et puis il revient à la surface? Et ensuite, la façon de donner l'enseignement. Et puis, il y a un test subsidiaire. Je dis subsidiaire parce que, après avoir fait ces trois choses, les gens devraient être au courant. Mais il y a encore un petit troisième, c'est qu'est-ce que l'enseignement produit sur ceux qui l'entendent? Vous voyez, mes frères et sœurs, le résultat que provoquent certains enseignements sont désastreux. La tendance à l'erreur, elle s'étend comme une gangrène, dit l'apôtre Paul, 2 Timothée 2,17. Et cette tendance à l'erreur, elle détruit la foi, 2 Timothée 2,18, c'est-à-dire qu'elle favorise le légalisme. Troisièmement, elle engendre l'impiété, parce que quand on devient légaliste, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait? On s'aperçoit qu'on n'y arrive pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tombe dans l'impiété, parce qu'on est découragé. 2 Timothée 2,16, pour ceux qui veulent le verset. C'est le processus normal. C'est le processus normal. Au contraire, un enseignement juste, selon la parole de Dieu, il va produire la foi, l'amour, et toutes ces sortes de choses. Alors, une chose. Cet enseignement de Jésus qu'il donne là ne vise pas à nous entraîner à suspecter tout le monde. Cet enseignement-là ne nous entraîne pas à nous lancer à la chasse aux hérétiques pour savoir est-ce que c'est un hérétique, est-ce que c'est un faux. Non, cet enseignement-là, c'est un rappel solennel du sérieux avec lequel l'Église doit procéder. Parce que c'est la vérité qui est en jeu. La vérité, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui libère. Et si on écarte la vérité, il n'y a plus de libération, il n'y a plus de salut. La vérité, elle construit, l'erreur, elle détruit. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation terrible en ce début de siècle-là. La vraie Église, elle est menacée par le péril de la confusion parce que les gens, ils aiment le mensonge. Ils adorent ça. Ils aiment le mensonge plus que la vérité. Alors, il nous faut rester dans la simplicité de l'évangile que Jésus-Christ a rétabli aussi en cette fin de siècle. L'évangile a toujours existé tel qu'il est, mais aujourd'hui, il est rétabli dans notre connaissance. Tout est là dans le sermon sur la montagne. En parlant des faux prophètes, Jésus y met un point final à la description de ce que doivent être nos relations les uns avec les autres dans la communion fraternelle, dans nos relations avec les gens dans ce monde, dans nos relations avec Dieu, dans nos relations avec... Vous vous souvenez de ce sermon que je vous ai prêché depuis tant de semaines? En tant que frère, le chrétien, il parle selon la vérité à son frère, avec amour, mais il va user aussi d'autocritique. Il va apporter son soutien moral, mais constructif. En tant que porteur de bonnes nouvelles, parce que c'est ce que nous sommes aussi, eh bien, il va regarder l'Évangile comme une perle de grand prix et il va veiller à ce que cette perle de grand prix ne soit pas exposée au port. Par amour pour les terriens, il va se comporter envers tous de la même manière, de la manière dont il voudrait être traité lui-même. Comme fils de Dieu, il va regarder son Père avec humilité. Il va regarder son Père avec confiance, en s'attendant à ce que son Père lui accorde toutes choses dont il a besoin. En tant que pèlerin voyageur, parce que nous sommes tout ça, sur ce chemin difficile, parce que c'est un chemin difficile, ce n'est pas les épreuves qui rendent le chemin difficile, c'est le chemin qui est difficile. C'est quand vous allez comprendre ça? C'est le chemin qui est difficile, ce n'est pas les épreuves. Le fait de vivre dans la condition mortelle, c'est difficile. Parce que nous sommes des esprits à la base, et nous sommes venus tabernacler dans les corps, et ça c'est difficile, mais on l'a voulu, alors vivons-le maintenant, du mieux qu'on peut, avec l'aide de Dieu. Et dans ce chemin-là, en tant que pèlerin voyageur, eh bien nous devons nous réjouir, et nous nous réjouissons de la communion avec les autres pèlerins. Ah, quel pèlerin des fois! On ne vous dit pas, les pèlerins, la gueule qu'ils ont. Mais on se réjouit. Amen. Moi, j'aime bien parler avec mon frère Raphaël, qui est un illettré. Et j'aime bien parler avec des gens qui sont des savants, et que je suis là-bas, des fois, je ne comprends pas une phrase sur deux. Mais je me réjouis. Il y a une multiplicité. Il y a tellement de différences. Il y a tellement de gens différents. C'est réjouissant, non? C'est extraordinaire de vivre sur ce chemin avec Jésus-Christ. On peut trouver tout ce qu'il y a est à notre portée. On est comme une espèce de club. Écoutez, vous voulez aller dans le club du foot, vous allez rencontrer que des gens qui aiment le foot. Mais c'est difficile de parler dans un club de foot d'autre chose que de foot. Maintenant, quand vous rentrez dans l'église de Jésus-Christ, vous pouvez parler de tout, pas seulement de Jésus, mais de toute la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Même de foot, on peut parler. Ben, pas trop avec moi, mais j'y connais rien, mais enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? On est tellement différents les uns des autres. On a tellement de talents différents les uns des autres. Et on peut mettre en commun toutes ces choses, tout savoir, afin de pouvoir s'entraider, se bénir les uns les autres. Et puis, se réjouissant dans la communion avec les autres pèlerins, eh bien, on regarde à notre objectif, c'est-à-dire l'ultime, ce qui va nous arriver, quoi, à la fin. Notre glorification, notre exaltation. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. L'autre jour, je me regardais, j'étais en train de me raser. Je dis, oh là là, quelle vieille chose. C'est pas possible, je suis devenu ça. Je dis, ben, tant mieux dans un sens. Ça me rapproche du jour où Jésus va m'enlever, va glorifier mon vieux corps. Et ça m'a rappelé ce vieux chant, vieux pèlerin. On va le chanter tout à l'heure, vieux pèlerin, si vous voulez bien. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est à ça qu'on regarde. Jésus revient bientôt, on va être changé, on va être glorifié, on va être exalté dans la présence de Dieu, c'est ça. Alors on a les yeux fixés là-dessus et non pas sur simplement les détails de la vie, les machins, les problèmes. Alors, ayant connu que tout ça c'est bon, ce que je viens de vous dire, en tant que frère, en tant que pèlerin, en tant que fils de Dieu, en tant que ceci, en tant que cela, en tant que tel, ayant connu que tout cela est bon, il est donc, le chrétien, en train de se garder des faux prophètes. Tout simplement, sans même y faire attention. Vous voyez? Sans se dire, j'espère que ce n'est pas un faux prophète. Et là, qu'est-ce que c'est un faux prophète? Non, il ne faut pas que j'achète ce bouquin, c'est peut-être un faux prophète. Je vais juste lire les trois premières pages pour voir si c'est un faux prophète ou pas. Non, il n'est même pas obligé. Parce qu'il est protégé par son activité de sainteté consacrée à Dieu. Souvenez-vous toujours que Jésus est infiniment plus puissant pour vous protéger, vous aider, que le diable n'est puissant pour vous mettre dans l'erreur. Ne vous affolez pas. Restez confiant que le Seigneur est avec vous. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, et non pas dans le souci, dans la crainte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de m'avoir aidé à terminer ce message. Bien sûr, tout n'est pas dit au sujet des faux prophètes, mais je pense avoir dit l'essentiel afin que chacun de ceux qui entendent puisse vivre dans le repos, être tranquille, sachant que si on vit comme tu veux que nous vivions, eh bien nous ne pouvons pas être trompés. Nous ne pouvons pas être trompés. Du moins pas longtemps. Merci Seigneur Jésus. Merci d'aider à chacun à relever sa tête et aller sur le chemin avec la paix dans le cœur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Maison à moi, je vais trouver.
j'achèverai bientôt ma route. J'entends tout proche le Jourdain. La mort n'a rien que je redoute. J'y laisserai. Je vais là-bas revoir ma mère. Elle, elle enfin me consoler à l'autre bord de la rivière, à la maison. Mes souffrances et le repos pour mon vieux corps. Voici venir la récompense par Dieu promis. Jésus, sans fin, merci.